Twitter, et après? On a déjà beaucoup débattu de l'achat de Twitter par Elon Musk, on a admiré ou dénoncé qu'il soit possible à un homme seul de dépenser plus de 40 milliards de dollars pour racheter une entreprise, dans le seul but, apparemment, d'y changer la politique de censure, et le nombre de mots que chaque message peut contenir. De fait, ce qui s'y joue est bien plus important que cela. D'abord, Elon Musk ne fait pas mystère de son intention de réduire massivement le contrôle du contenu des messages qu'on pourra y écrire, conformément à la conception américaine de la liberté d'expression, sauf peut-être en Europe, où le Digital Service Act, qui entre en vigueur ces jours-ci, devrait en principe interdire la diffusion de propos diffamatoires, de menaces, ou de fausses nouvelles. Conscient des conséquences de cette libération de la parole, 26 associations activistes anglo-saxonnes très puissantes se sont regroupées pour publier un manifeste appelant les annonceurs publicitaires à ne plus utiliser le support de Twitter parce que, disent-elles, une entreprise aurait tout à perdre à voir ses produits voisinés avec des messages de haine et des fausses nouvelles. Elon Musk, qui ne fait pas mystère qu'il compte développer massivement la publicité sur son réseau, eut beau jeu en réponse de dénoncer, derrière ses associations, ceux qui les financent, dont, dit-il, les fondations que préside et anime George Soros, Bill Clinton et Barack Obama. De fait, il est clair que Twitter, sous le règne de Musk, cessera d'être le grand média gratuit et universel qu'il est aujourd'hui pour devenir un média commercial, où beaucoup devront payer pour avoir le droit de s'y informer et celui d'y écrire. Plus encore, bien des gens, et pas seulement parmi les dirigeants démocrates, voient la main des républicains derrière cette transaction, qui serait avant tout une manœuvre de politique intérieure américaine, pour mettre ce très grand média planétaire au service des républicains et de Donald Trump. Et, même si cette opération ne se résume pas à cela, imagine-t-on ce que seront les États-Unis et le monde si, dans 6 mois, le Congrès devenait entièrement républicain, appuyé par un Twitter mis à son service? Imagine-t-on ensuite une élection présidentielle où ce réseau ferait campagne ouvertement pour le retour de Trump à la Maison-Blanche? Imagine-t-on ce président, dominant de nouveau son réseau préféré, prenant en tout le contre-pied de celui qui fut son successeur et son prédécesseur, retirant les troupes américaines d'Europe et laissant les Européens de l'Ouest seuls face à leurs voisins, comme c'était déjà son intention à la fin de son premier mandat? C'est tout cela qui se joue aujourd'hui derrière ce qui semble n'être qu'un épisode de monopolie planétaire. Que faire alors, en particulier en Europe? D'abord, rendre opérationnel au plus vite le DSA, cette régulation des réseaux qui, si elle est bien appliquée, devrait interdire à Twitter de diffuser en Europe tous les mensonges qui ne seront plus censurés ailleurs. Encore faudrait-il que cette régulation dispose des moyens financiers, judiciaires et humains pour être efficace. On en est encore loin. Ensuite, l'Europe devrait tout faire pour aider à créer d'autres réseaux de même nature, à les rendre aussi puissants et, simultanément, pour réclamer que Twitter, comme les autres grands réseaux, soit considéré comme des biens publics mondiaux ou au moins obéisse à des règles mondiales. Plus généralement, l'Europe devrait devenir le fer de lance d'une bataille conduisant à mettre en place une gouvernance mondiale permettant de sortir de cette situation folle où une personne peut aisément trouver plus de 40 milliards pour jouer avec la démocratie, et cela ne fait que commencer, alors que personne ne peut trouver la même somme pour vacciner la planète contre des maladies contagieuses, lancer un grand programme de protection des océans, planter les dizaines de milliards d'arbres qui absorberaient le CO2 émis, ou tant d'autres problèmes, qui ne peuvent être que traités que mondialement. Tout cela devrait enfin convaincre que seul le niveau européen nous donne une petite chance de pouvoir nous protéger et contre-attaquer, et faire reconnaître à tous ceux qui croient, ou veulent faire croire aux autres, qu'un pays peut s'isoler du reste du monde qu'on ne peut le faire qu'en niant le réel. Et en payant le prix.